17h. 7h-9h, c'est Nico Saliaga sur Europe 1.
Je ne commenterai pas le débrief de Mathieu Noël.
C'était formidable.
Vous chantez bien.
J'ai honte, j'ai honte.
Mais non, vous ne devriez pas. Le talent, c'est le talent. Hélène Zélani est avec nous, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La loi santé à l'Assemblée et un débat très animé autour d'un sujet crucial, les déserts médicaux. Faut-il obliger les jeunes médecins à s'y installer? C'est au nom de la présomption d'innocence que le pape refuse la démission du cardinal Barbarin. Nous verrons comment on réagit dans son diocèse de Lyon. Et puis pourquoi ne pas s'offrir une petite balade sur le canal du Midi? Il vient de rouvrir après de longs travaux cet hiver.
Et à 8h15, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Avec la suppression du numerus clausus, d'ici quelques années, il y aura plus de médecins. Mais iront-ils s'installer dans les déserts médicaux? C'est toute la question qui se pose à l'occasion de l'examen de la loi santé à l'Assemblée. Des dizaines d'amendements présentés par tous les partis vont dans le même sens. Il faut obliger les jeunes diplômés à ouvrir leur cabinet dans les secteurs délaissés par leurs aînés. Le gouvernement est contre, mais par principe, les députés déploient des trésors d'imagination pour arriver à leur fin. Ève Roger.
Pour beaucoup de députés, la solution est simple. Il faut obliger les jeunes diplômés à démarrer leur vie professionnelle dans les déserts médicaux. Et s'ils ne s'y plient pas, c'est 1000 euros d'amende par mois. Autre sanction possible, que leur consultation ne soit pas remboursée du tout par la Sécu. À lui seul, le député de Gironde, Benoît Simian, a déposé 4 amendements et pourtant, il est de La République En Marche.
Il y a certes la liberté d'installation, mais on doit aussi répondre à l'urgence du droit à la santé qui est un droit constitutionnel. On nous répond que nous sommes coercitifs. Ce n'est pas de la coercition, mais de la régulation.
Mais pour la présidente du syndicat des étudiants en médecine, Clara Bonavion, cette avalanche d'amendements est surtout liée à l'actualité politique.
Le contexte fait que les députés cherchent aussi beaucoup à regagner la confiance de leurs administrés. Et ce que demandent les administrés, c'est un médecin.
Et dans l'entourage de la ministre de la Santé, on insiste, c'est une fausse bonne idée si l'on empêche les jeunes médecins de s'installer là où ils veulent. Ils risquent surtout de s'en aller ailleurs, à l'hôpital, dans la médecine scolaire ou du travail.
Ève Roger.
Et on y reviendra à 7h45 avec le professeur Jean Sibilia. Il est le président de la conférence des doyens des facultés de médecine.
3 heures d'audition pour Christophe Castaner devant les sénateurs de la commission des lois hier pour s'expliquer sur l'action du gouvernement lors des violences de samedi, notamment sur les Champs-Élysées. Il a d'ailleurs révélé que les manifestants avaient failli reprendre l'Arc de Triomphe. Un peu plus tôt à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur avait été hué par certains députés qui réclamaient sa démission.
Un répit pour le cardinal Barbarin. Le pape François refuse sa démission en attendant son procès en appel.
Oui, Monseigneur Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence sur les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Hier soir, il expliquait lui-même les raisons de la décision du pape.
Pour une raison très simple, il me dit quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela. Cela dit, je comprends que tu as envie de t'écarter ou de t'éloigner un peu. Il a utilisé le terme espagnol « licencia ». Donc, il m'a dit, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi. Rome n'a pas à intervenir dans ce genre de choses, dans la conduite, pour un choix provisoire à l'intérieur d'un diocèse. C'est comme ça que j'ai fait ce choix.
Monseigneur Barbarin sur la chaîne KTO, comment réagissent les fidèles lyonnais? Écoutez le reportage de Jean-Luc Bougeon.
Une décision sage et équilibrée devant l'église Saint-Polycarpe de Lyon. Les paroissiens étaient hier plutôt d'accord avec le choix du pape François de refuser pour l'instant la démission du cardinal. Ça aurait été trop sévère pour Paulette Aigui.
Je trouve qu'il a bien fait. Je comprends. C'est très bien le pape.
Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, quand même, parce qu'il n'est pas le seul responsable. Hein.
Pour Jean-Claude, en revanche, l'église manque là une occasion de montrer qu'elle luttait vraiment contre la pédophilie.
Il est temps que l'église catholique prenne vraiment ses responsabilités en face de ce problème-là qui n'est pas possible. Quoi.
Dès aujourd'hui, le cardinal va donc se mettre en retrait pour quelque temps, sans doute jusqu'à son procès en appel. C'est le vicaire général qui gérera le diocèse au quotidien, une décision pleine de sagesse selon Vianney.
Je pense que ça ne peut que lui être bénéfique, ne serait-ce que lui à terme personnel. J'espère qu'il continuera à porter notre diocèse encore longtemps. On a hâte de le revoir dans ses fonctions.
Marielle est du même avis, que le cardinal prenne du champ c'est bien, mais il faut que cela serve à quelque chose.
Il faut qu'il réfléchisse, il faut que les choses changent vraiment. Pour faire un petit point, pourquoi pas, et revenir en pleine forme avec d'autres idées, ce serait bien.
À partir d'aujourd'hui, donc, le cardinal n'apparaîtra plus en public. Exemple, il ne célébrera plus de messe, à commencer par celle de Pâques, dans un peu plus d'un mois. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À l'association de victimes La Parole Libérée, à l'origine du procès Barbarin, juge le soutien du pape comme l'erreur de trop. Et puis à Saint-Denis, en banlieue parisienne, les 70 participants à une conférence sur les violences faites aux femmes n'en sont pas revenus quand ils ont vu arriver Tariq Ramadan, mis en examen pour viol. Il s'est invité dans le public et quand on lui a demandé de partir, il a refusé. On va y revenir dans le journal de 7h30.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Une journée d'hommage à la mémoire de la jeune femme de 21 ans tuée à Marseille pour un téléphone portable. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
C'est la folie ici pendant les Besson Days. Tu me prends en photo à côté de la super promo sur les escarpins?
Oui, si, avec le super bon plan sneakers.
T'es parfaite. Et je la partage tout de suite. Hashtag mon plaisir Besson.
Jusqu'au 26 mars, remise en caisse sur les produits signalés. Voir conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com.
Besson Chaussures.
J'ai gagné, j'ai gagné! Pour changer les portes et fenêtres à la maison, j'ai tapé monprojetalu.fr et j'ai gagné une offre hallucinante, regarde!
Mais avec Rhénaër, c'est 100% gagnant. Et tu peux même te faire rembourser ton projet jusqu'à 5000 euros.
Jusqu'au 29 mars avec Rhénaër Aluminium, changez vos portes et fenêtres en vous connectant sur monprojetalu.fr. Conditions chez nos menuisiers agréés.
Allez, cours, terrasse, avec Daniel Moquet. Vos aménagements extérieurs s'adaptent à vos envies. Rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet les samedis 23 et dimanche 24 mars. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Daniel Moquet signe vos allées.
Pendant les tickets d'or, les magasins U vous ont mitonné un prix bas inratable sur l'huile Le Sieur pour ne pas faire flamber votre budget. Lucien du rayon épicerie vous en glisse un mot.
En ce moment, on vous offre une bouteille d'huile Isio 4 Le Sieur d'un litre pour deux bouteilles achetées, soit une économie inratable de 2,70€.
Une bouteille offerte pour deux achetées, soit 2,70€ d'économie. C'est une promotion plutôt bien huilée, non?
U. Commerçant autrement.
Jusqu'au samedi 23 mars, liste des magasins participants sur magasinu.com, soit 1,80€ le litre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. L'émotion était très forte hier sur tous les sites universitaires d'Aix-Marseille où on rendait un dernier hommage à Marie, 21 ans.
Oui, cette jeune étudiante poignardée à mort à Marseille par l'homme qui lui a volé son portable et qui n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé. La famille est venue d'Alès pour assister à la minute de silence et à l'hommage rendu par ses camarades de la faculté d'Aix, Nathalie Chevance.
Entre les murs de la fac de lettres où Marie étudiait l'anthropologie, le cri de douleur de sa mère venue se recueillir résonne encore.
Elle était passionnée par ses études. Elle était passionnée par tout. Il faut réagir, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Mais demain, c'est peut-être vous ou une autre dame.
Dans le hall, reste un bouquet de fleurs et une photo de la jeune fille souriante. À la mémoire de Marie, peut-on lire sur le grand mur blanc « Pense-toi libre », message de ses camarades profondément choqués que l'on puisse mourir pour un téléphone portable.
C'est une horreur, vraiment. C'est terrible. De faire une chose pareille, pour ça, c'est impensable.
C'est triste, parce qu'elle était vraiment jeune. Elle avait quoi, un an de plus que moi. Donc, en plus, moi, je viens de Marseille. Je me sens concernée encore plus, comme c'est elle, comme c'est moi.
De la colère, de l'incompréhension. Surtout, on ne croit plus à l'humanité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une histoire comme ça arrive. Je trouvais ça important de commémorer sa mémoire.
Mobilisation des étudiants, de la famille contre l'indifférence, la peur. Car Marie avait déjà été agressée sans que personne n'intervienne, à part pour filmer la scène sur un téléphone. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les grévistes de la prison de Condé-sur-Sarthe se prononcent aujourd'hui sur la poursuite du blocage. Ça fait maintenant deux semaines que les surveillants bloquent l'établissement depuis la violente agression de deux de leurs collègues par un détenu radicalisé. Hier, le directeur de l'administration pénitentiaire s'est rendu sur place pour leur faire des propositions.
Et en ce premier jour de printemps, on vous emmène en balade au fil de l'eau.
Oui, sur le canal du Midi qui vient tout juste de rouvrir à la navigation après 4 mois de travaux. Il avait dû fermer brutalement au lendemain des inondations dans l'Aude. Benjamin Péter s'est rendu sur les berges à la hauteur de Carcassonne.
Des arbres en travers, des mètres cubes de terre qui bouchent le canal, c'est le spectacle qu'ont découvert Christelle Bernès et ses équipes de VNF le 15 octobre. Aujourd'hui, les berges sont stabilisées, mais à certains endroits, comme sur le bief de Saint-Jean, où un glissement de terrain a laissé un trou béant, on a dressé temporairement un monticule de terre.
Là où il y a eu des ruptures de digues, on a reconstruit à l'identique, on a reconstruit la digue. Et à cet endroit-là, on a préféré prendre une solution, on va dire, temporaire, qui a permis de réouvrir à la navigation en sécurité. Si ça continue à tomber, ça tombera pas dans le chenal, mais à côté sur la terre.
4 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser ces travaux, indispensables alors que jusqu'à 10 000 bateaux empruntent le canal chaque année. Felipe Escobar dirige le boat, l'un des principaux loueurs.
On a des bateaux qui sont sortis du canal, donc ça a pris tout l'hiver pour réparer les bateaux et les repréparer pour la saison.
Là, vous êtes prêts du coup ?
On est prêts. Ça participe au rayonnement de la région et du canal à travers le monde, et c'est des clientèles qui sont vraiment intéressées par le côté culture, nature et gastronomie de la région.
Et dès la fin de la saison, en novembre, VNF va lancer une nouvelle série de travaux pour effacer les derniers stigmates des inondations. À Carcassonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis c'est ce qu'on appelle un miraculé. Un petit garçon de 5 ans qui s'était perdu lors d'une promenade en famille a survécu pendant 24 heures dans un désert de l'ouest de l'Argentine. Un millier de bénévoles s'étaient lancés à sa recherche. C'est un ancien pilote de moto du rallye Dakar qu'il a découvert à plus de 20 km de là où il avait été vu pour la dernière fois. Il était légèrement déshydraté mais plutôt en forme. Il a raconté qu'il avait bu dans un ruisseau et mangé de l'herbe.
C'est mignon, bah, tout va bien. Merci Hélène Zélani.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Vous nous appelez, le répondeur vous attend au 39-21, 50 centimes la minute. Et sur les réseaux sociaux également, Twitter, avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliag.